France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Le ministre de l'Éducation nationale assure que les premières épreuves du contrôle continu du baccalauréat ne seront pas perturbées dans les jours qui viennent. Elles démarrent en ce moment. Mais déjà, de premières épreuves ont été annulées samedi dans un lycée de Clermont-Ferrand où a eu lieu une manifestation. Le ministre Jean-Michel Blanquer annonce qu'il y aura des poursuites. L'année dernière, d'ailleurs, 50 enseignants avaient déjà été sanctionnés par un avertissement ou un blâme. 500 autres avaient été rappelés à l'ordre parce qu'ils avaient justement participé à une grève des correcteurs et des surveillants pendant le baccalauréat 2019. Les mouvements sociaux et encore la mobilisation contre la réforme des retraites, elle marque le pas dans les transports aujourd'hui. Après plus de 40 jours de trafic perturbé, il y a ce lundi une large amélioration du trafic annoncée à la SNCF et à la RATP. La CGT doit se réunir en assemblée générale aujourd'hui avec une nouvelle mobilisation nationale prévue vendredi, jour de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Elles étaient des milliers dans les rues de Paris hier pour dire non à la PMA pour toutes les femmes. 26 000 personnes selon le cabinet Occurrence. Elles demandent le retrait du projet de loi bioéthique qui sera examiné demain par le Sénat. Encore 90 blessés à Beyrouth. De nouvelles violences ont éclaté hier dans la capitale libanaise lors de manifestations contre le gouvernement. Les forces anti-émeutes ont tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Hier soir, encore des centaines de personnes se sont rassemblées dans le centre-ville, criant « révolution » et jetant des pierres et des pétards. Samedi, c'est-à-dire avant-hier, 377 personnes avaient été blessées dans les deux camps. Et puis cette question également dans l'actualité ce matin, va-t-on vers une sortie du conflit en Libye? 11 dirigeants réunis à Berlin hier ont en tout cas appelé à un cessez-le-feu permanent. Ils promettent de respecter l'embargo sur les armes qui avait été décidé en 2011 par l'ONU, embargo qui n'a jamais été respecté. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 6h30.
Histoire, autrement sur France Culture. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Cette semaine, nous allons en Iran, à la confluence des passions. De Darius le Grand au Shah d'Iran, de l'Empire Sassanide à la République des Mollahs, c'est un carrefour de peuples et de cultures. Mais comment porter un regard perçant sur un pays au carrefour des mondes qui fascine autant qu'il effraie, mais sans jamais laisser indifférent?
Le cours de l'histoire, cette semaine à 9h05 et sur franceculture.fr. Chaque jour à 14h, entendez-vous l'écho? Stephen de Rocchini.
Entendez-vous la mort qui rôde? Nouvelle série consacrée à l'économie du repos éternel. Que transmettons à l'heure du trépas? Quel est le prix de la vie? Et quelles inégalités face à la mort? Des pompes funèbres au cimetière? Cette année, nous passons le mois de janvier et son Blue Monday, 6 pieds sous terre.
L'économie de la mort, entendez-vous l'écho? De lundi à vendredi à 14h et sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture. Nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, à la radio ou en podcast. Tous les lundis, c'est l'actualité littéraire et aujourd'hui, je suis en compagnie de Constance Debray à l'occasion de la parution de son dernier roman chez Flammarion, Love Me Tender.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Parce qu'elle a tout plaqué, mari, famille, situation, pour vivre une autre vie, s'épanouir dans une autre sexualité, une femme perd juridiquement la garde de son enfant, enfant qui de toute manière l'a rejeté. Love Me Tender est le récit d'une libération qui s'affirme dans la douleur. C'est aussi, dans le sens strict de l'expression, un drame bourgeois contemporain et une réflexion sur le prix à payer quand on veut s'affirmer en s'affranchissant de son milieu. Bonjour Constance Debray.
Bonjour.
J'ai oublié de préciser, mais je pense que tout le monde aura compris qu'il s'agit d'un récit autobiographique.
Oui, alors je ne sais pas si c'est un récit, on peut parler toujours de ce genre de choses. J'ai voulu que le mot romance figure sur la couverture, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. parce que j'ai pas fait que raconter ma vie. Enfin, parce que pour tout vous dire, ma vie, elle m'intéresse parfois moi-même assez peu. J'ai essayé de faire avec ce qu'il y avait dans ma vie. Quelque chose qui s'appelle, ça peut paraître prétentieux, mais de la littérature. Il y a vraiment un travail ouais, un vrai travail. Mais autobiographique, oui, bien sûr. Et ça, sans phare, c'est même la raison pour laquelle mon prénom figure dans le... Enfin voilà, c'est celui de la narratrice. Oui, bien sûr.
Alors, il y a tout le tragique de l'existence dans votre livre, le tragique de l'existence et des liens humains, les violences ordinaires de la vie et celles particulières liées aux ruptures. Mais pourtant, c'est un récit apaisé. Ni regret, ni règlement de compte. Alors, comment tout cela devient littérature? Éternelle question, bien sûr, Constance Debray. Mais, quand même, pour vous, comment est né ce livre ou comment est né ce désir d'écrire ce livre? Est-ce par envie de partager une expérience, votre grande traversée du chagrin? Ou c'est aussi une manière d'officialiser par les lettres, par les mots, une rupture?
J'aime bien que vous parliez de tragique, voilà, parce que je pense qu'il y a une manière d'essayer de comprendre ce truc extrêmement chaotique qu'on vit, qui s'appelle la vie ou l'existence, auquel je crois en général, en tout cas pour ce qui me concerne, je ne le comprends rien, c'est de le voir au travers... du prisme grec, je dirais, j'ai toujours ce truc d'Homère, moi, auquel je ne cesse de revenir, l'Iliade et l'Odyssée, le conflit et le voyage. D'ailleurs, Ulysse, on ne sait pas très bien si... Alors, il part, il a un peu forcé de partir, il a du mal à rentrer chez lui, mais on sait bien qu'il a pas forcément hâte, et pourtant, il finit par revenir. Enfin, voilà, il y a cette c'est à la fois une rupture et un retour empêché. Alors pourquoi je crois que le c'est pas d'abord la vie et ensuite je vais le mettre quelque part, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc de la littérature? Et ce premier truc pour moi, c'est évidemment une approche de lecteur, avec le sentiment, je pense que je suis pas la seule sur terre à l'avoir, je pense qu'on l'a à peu près tous, c'est ce qui fait qu'on ouvre les livres peut-être.
Mais sauf que vous avez décidé depuis 4-5 ans d'écrire.
Oui, mais je
Constance Debray.
Oui, et la vraie rupture, c'est celle-là. C'est pas de renoncer à tant de mètres carrés pour avoir un peu moins de mètres carrés, ou de passer de l'hétérosexualité à l'homosexualité. Tout ça, ce sont des détails. Ce sont pas des choses, ou de vivre avec un peu d'argent ou moins d'argent. Tout ça, ce sont des détails. C'est totalement accessoire. Pour moi, la vraie rupture, c'est littérature. C'est-à-dire, c'est à un moment, et finalement, évidemment, c'est la même chose, à un moment de se dire que ce sentiment de vivre dans des choses qui paraissent pas vraies, dans cette espèce de blabla, de discours ou de gestes un peu automatiques, dans lequel on ne se sent pas, en tout cas moi je me sentais pas, mais je crois que ça c'est quelque chose qu'on peut tous avoir, quelles que soient nos vies, à notre place, des choses qui paraissent fausses, qui paraissent... en dehors de ce qui devrait être qui, pas essentiel, de les dégager d'un coup. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de l'ordre de la table rase.
Que c'est pas...
Et que le seul endroit où on peut peut-être toucher d'un peu plus vrai l'essentiel, c'est dans la littérature, donc en s'y essayant.
La littérature, c'est vaste comme univers. On n'est pas dans une histoire inspirée. On n'est pas dans un précis philosophique pour parler de la vie, des violences de la vie.
Vous avez décidé
de vous dévoiler, de raconter votre vie. Vous.
Oui, mais alors attendez, parce que ma vie, mais on s'en fiche que ce soit. Bien sûr, mais je l'ai fait de façon très très précise et incarnée par moi, parce que ce que je sais de l'existence en général, c'est par la mienne propre. Et finalement, moi, j'aime les raccourcis et les choses directes et très simples. Et plutôt que passer par la fiction et les grandes phrases, j'ai voulu essayer de passer tout simplement par le côté très direct du jeu. Voilà, du jeu et avec mes événements dans leur banalité moderne, avec des mots simples et en prenant ce qui se passait dans ma vie pour essayer effectivement de... de raconter. Je sais pas très bien ce que je raconte. Hein.
Ah,
vous,
voilà,
savez, vous savez mieux que moi. Vous allez me le dire.
Constance devrait vous raconter comment basculer d'une vie normée, femme mariée avec enfant et bonne situation, exerçant le métier d'avocate, descendante d'une famille de ministres et de grands médecins, à une vie hors norme, dépouillée, gardée de jeans, de livres, une brosse à dents, dépossédée de son enfant aussi, et puis débridée puisque vous racontez votre vie sexuelle, comment vous passez d'une fille à l'autre. Alors, le côté romanesque de votre livre, c'est ce qui me le rend très important cette rentrée d'hiver, c'est que il y a tout un côté romanesque. Le côté romanesque, c'est bien sûr la bohème librement choisie plutôt que le confort contraignant. Est-ce que ça a été un élément important, moteur pour écrire ce livre Love Me Tender?
Bah ça a été la réalité, c'est-à-dire qu'à un moment j'ai voulu encore une fois repousser ce qui n'était pas essentiel et ce qui est pas essentiel et ou même ce qui dans ma vie me paraissait m'empêcher de vivre, que enfin ce sont oui, c'est l'accumulation des choses et des gestes tout faits. Donc j'ai écarté et je trouvais qu'il y avait oui, que c'était quelque chose qu'il fallait. Parce que c'est pas juste un hasard, c'est la volonté d'aller à l'essentiel. Et je crois que dans la littérature il y a ça. Donc bien sûr qu'il fallait que je le dise dans le livre. Voilà. Et une fois qu'on a tout écarté, qu'est-ce qui se passe? Parce que je crois qu'il y a ces deux mouvements dans ce désir de rupture, tout désir de rupture. Il y a la volonté de couper net avec des choses qui vous empêchent, voilà, c'est fini, là, on jette tout, on passe tout à la trappe, et il y a un désir d'autre chose, quelque chose qu'on ne sait pas très bien, qu'on ne définit pas, je crois. Mais c'est pour faire entrer, justement, du neuf, qu'on se débarrasse de l'ancien. Et ça, c'est une expérience qui est... extraordinaire, rien que pour ça. Et encore une fois, on parle de pas grand chose, hein. J'ai pas traversé l'Atlantique à la nage, je me suis pas battue avec des requins avec un canif. Non mais c'est vrai, on parle pas de grand chose. Donc ce sont finalement des tout petits gestes qui font basculer dans quelque chose de neuf, voilà. Alors oui, ça me paraissait quelque chose qui... Qu'est-ce qui se passe en fait, justement? Quand on balance tout, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe beaucoup de choses.
Sauf que dans votre cas, ou dans Love Me Tender, Constance Debray, tout cela aurait été plus évident, plus facile, voire moins intéressant, s'il n'y avait pas cet enfant. Cet enfant qui vous lie à l'ancienne vie.
Absolument. Voilà. Et effectivement, dans tout ce que je jette, il y a une chose que je n'ai pas jetée, mais qui a rompu malgré moi, enfin en tout cas qui a scié. C'est l'enfant, oui ça. Dans un cadre particulier, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis retrouvée ou la narratrice, parce que c'est quand même quelque chose qui est mis en scène, hein. Ma vraie vie, c'est encore autre chose, même si elle est évidemment, elle colle derrière ce livre. Je me suis retrouvée j'ai fait l'objet d'un procès, enfin d'ailleurs dont j'ai pris l'initiative, mais peu importe. Hein, c'est le cas d'Oscar Wilde aussi.
Ouais.
Enfin, ça me paraît prétentieux, mais voilà. Et finalement, on a fait mon procès. Parce que j'avais rompu avec quoi, finalement?
Alors, justement.
Avec le travail et avec la famille, avec ces toutes petites choses. Sans demander quoi que ce soit, sans donner des leçons. Mais c'est quelque chose, manifestement, qui n'est pas accepté. En tout cas, qui a été vu comme le signe soit du vice, soit de la folie, j'en sais rien.
Ça, vous parlez de votre homosexualité, parce que vous le dites
oui, mais
clairement, Constance Debray.
Je crois que c'est beaucoup plus large.
Votre ex ne vous en veut pas de l'avoir quitté, mais de l'avoir quitté pour aller avec des filles.
Non, mais d'abord, j'en sais rien, et vous avez sans doute remarqué que je ne parle pas pour lui. Ouais. Je ne sais pas, moi, je prends les éléments ouais. qui... que j'ai reçu, mais je n'interprète pas les faits ni.
Si, quand même un peu, c'est ce qui vous reproche à travers ce procès, quand même. Vous n'êtes pas la mère idéale pour son fils.
Ah, ça, certainement.
Ouais. Mais on aura compris
d'abord,
pourquoi.
D'abord, il y a lui, et puis il y a les instances judiciaires qui vont, au vu d'un certain nombre d'éléments. Dont mon homosexualité, mais sans jamais le dire, hein, sans jamais dire c'est ça ou ça ou ça plus ça, mais enfin les éléments qui sont là, qui sont présents et qui vont les conduire, en tout cas dans un premier temps effectivement, à plus entendre la parole du père que de la mère, c'est-à-dire de la narratrice ou moi, si vous voulez, encore que quand même une bonne différence entre l'auteur et le narrateur, mais ça, je pas besoin de vous le rappeler. C'est simple, hein, c'est l'homosexualité, c'est le fait d'avoir moins d'argent et même finalement d'écrire. Ça, c'est assez quand même amusant de voir comme la littérature entre dans le procès, que ce soit par un certain nombre de livres qui sont considérés comme de lecture, qui sont considérés comme étant de mauvaises lectures, et même le fait de d'écrire est quelque chose d'assez mal vu, parce qu'il faut quand même attendre qu'un expert psychiatre dise, et ça c'est que je veux dire que la phrase, moi c'était dans ma vraie vie pour le coup, mais je trouvais ça merveilleux de la lire, que ni l'homosexualité ni le fait d'écrire des livres ne pouvaient être considérés comme une pathologie mentale. C'est quand même on peut sourire de ce genre de choses.
Ouais, ça c'est vrai, par exemple.
Mais alors voilà, c'est pas une pathologie mentale d'écrire. Bien.
Ouais.
On avance.
Alors pourquoi vous avez décidé d'écrire Constance Debré, tiens? Mais c'est votre deuxième roman, Love Me Tender.
C'est un peu ce que je vous disais au début, c'est parce que le sentiment qu'il n'y a que là qu'on peut soit lire, soit dire, hein, selon qu'on soit lecteur ou auteur. Enfin, ça dépend du moment de la journée. On est toujours les deux quand on écrit. Dire des choses, un sentiment confus de l'existence qui parfois nous étouffe, je crois, et qui n'a pas d'autre endroit qu'on peut pas mettre.
Mais ce désir, il était présent dans votre vie, j'allais dire dans votre première vie ou votre vie antérieure, il a été présent, étouffé, frustré ou pas?
Oui, écoutez, je toujours tourné autour des livres, mais je sais que c'est le jour où je me suis dit ah oui, ça y est, je sais que je peux, et peut-être un peu comment, c'est venu il y a 4 ans, hein, quand j'ai commencé Playboy, oui. Et c'est un.
C'est quoi l'élément déclencheur?
Ah ben dans la même semaine, j'ai couché avec une fille, je me suis mise à nager et j'ai ouvert mon ordinateur pour me dire ben voilà, ça y est, je vais écrire un truc en fait, mais pas écrire, je vais écrire un livre. Enfin, j'ai pas l'intention de juste écrire mon journal ou comme ça ou pourquoi. Et tout d'un coup, je me suis dit ah ouais, c'est génial. Et j'avais le sentiment d'avoir un super pouvoir tout à coup.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete. And I love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine.
C'est une version très à part, celle de Norah Jones reprenant Love Me Tender.
Que je ne connaissais pas et merci, elle est superbe. Ouais.
Mais pourquoi avoir intitulé votre roman Love Me Tender? Pourquoi revenir sur ce classique d'Elvis Presley?
Ça a bien marché pour lui, peut-être que ça marchera bien pour moi. Hein, et quelque chose que j'aime beaucoup dans ce titre d'ailleurs, c'est l'ambiguïté, parce qu'en fait on ne sait pas si c'est Love me, toi qui es tendre,
ouais.
ou aime-moi tendrement. Bon. Voilà, j'aime bien ça aussi.
Bon, je vais vous demander, Constance Debray, si vous voulez bien, de lire un extrait de votre roman, de votre récit, roman, autofiction, barrez les mentions que vous voulez ou gardez-les toutes. Je dois juste préciser que c'est moi qui choisis l'extrait, le chapitre.
Et comme je suis disciplinée, je me plie à cette décision.
Constance Debray.
Je ne suis pas une mère, bien sûr que non. Qui voudrait l'être à part celles qui ont tout raté, qui ont tellement échoué dans tout qu'elles n'ont trouvé que ce statut pour se venger du monde. Il y a des gens qui croient que c'est comme ça, des femmes qui se disent qu'elles sont mères parce qu'elles ont des enfants, des hommes qui pensent la même chose des femmes, pépères, les pères, ou bien des pères qui veulent être mères, comme Laurent, pour se venger des femmes qui ne sont pas des femmes, comme moi. Mère, c'est quelque chose de pire que femme. C'est un peu comme domestique ou chien, mais en moins bien, en plus méchant. Il n'y a qu'à ouvrir Instagram pour comprendre ça, ou bien prendre le train et voir les mères tripoter les enfants, les emmerder surtout, se hausser du col du haut de leur petit pouvoir sadique de mère, humilié, humiliant, un peu comme les prolétaires sur les sous-prolétaires, au moins en rêve. C'est leur affaire à tous ceux qui veulent croire à cette histoire que les femmes ont un lien avec la lune, avec la nature, avec l'instinct, qui leur commande de s'en tenir à la matière et de renoncer à être. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mère, ça n'existe pas. Mère comme statut, comme identité, comme pouvoir ou non-pouvoir, comme position de dominé et de dominant, comme victime et comme bourreau, ça n'existe pas. Ça n'existe jamais, ces choses-là. Il y a l'amour, et c'est tout autre chose. L'amour qui n'a même pas besoin d'amour en retour. L'amour qui ne demande rien. L'amour qui sait qu'il est et qui ne doute jamais. L'amour qui sait que la peine n'est rien, qu'elle ne nous concerne pas et qu'elle est inopérante, que la violence ne concerne que celui qui l'exerce. Mon fils sait tout ça très bien. C'est un petit mensch, mon fils.
Bravo pour cette lecture, Constance Debray. Et c'est là où on revient quand même à un sujet qu'il a de... Dès les premières phrases, en colère jusqu'à la fin, tout en très apaisé, c'est-à-dire l'amour maternel. Qu'est-ce que l'amour maternel? Comment peut-il être? Comment peut-on faire avec ce sentiment que vous décrivez comme doux et violent, et très souvent comme doux et violent en même temps?
D'abord, je ne sais pas ce que c'est que l'amour maternel. Je ne sais pas ce que c'est que l'amour en général. Je ne connais que du particulier, je connais que ce que moi j'éprouve, et encore ça change à chaque minute. Mais oui, je raconte l'histoire d'une mère qui a un moment, et c'est la mienne bien sûr, on a bien compris, qui a un moment de rupture avec tout, se trouve, trouve cet amour-là. Et cette relation avec son fils, menacée, suspendue, mise en procès, et cette mère qui rompt avec tout.
Se pose aussi la question, est-ce qu'elle peut rompre avec cet amour-là?
Mais je sais pas si elle se pose la question, c'est plutôt la question que lui pose le monde, que lui pose la société, et comme toujours dans ce genre de situation, elle essaye de faire avec, et elle fait comme elle peut, avec, en se posant toutes les questions. Parce que bien sûr qu'on va, qu'à cette occasion, puisqu'elle remet à peu près tout en question dans sa vie, elle va aussi se demander si toutes ces phrases toutes faites sur l'amour, l'amour maternel en particulier, Dieu sait qu'il y en a sur le sujet, et c'est en effet la raison pour laquelle il y a cette page sur « Je ne suis pas une mère ». C'est du vrai ou c'est du faux? Est-ce que finalement oui, on pourrait pas rompre? Ah bon, ben puisqu'on veut rompre avec moi, peut-être que moi aussi je peux rompre. Et pourquoi pas? Mais c'est comment on vit avec ce conflit, c'est surtout ça. Je crois pas au discours général sur les choses en général, sur toutes les choses, mais alors sur l'amour et sur l'amour en particulier, je crois que.
Alors du coup, bon. Vous allez me dire que votre roman Love Me Tender, Constance Debray, n'est ni un manifeste politique, ni un texte féministe.
Bah non, c'est de la littérature, donc moi je fais pas de politique. Après, toute littérature est politique, on peut en débattre pendant des heures. Oui, dans la page que vous avez choisi de me faire lire, je pense qu'effectivement, je dis que cette espèce de statut de construction culturelle qui emporte pour les femmes un certain nombre d'injonctions qui peuvent être très violentes, ne correspond pas, je crois, et certainement pour personne, à la réalité d'un lien très fort, pardon de cette banalité, entre deux êtres, tout simplement, une mère et un enfant, et un parent et un enfant, et que comme dans tous les liens très forts, il y a des éléments, des moments contradictoires, et c'est toute la beauté peut-être de cet amour, comme dans tous les amours, dire que l'amour est quelque chose, encore une fois, de fixe, de confortable et d'heureux, et que la réalité de l'amour maternel, ce serait une photo comme ça, en maillot de bain sur la plage, qu'on pourrait mettre sur un téléphone. Pardon, mais heureusement que c'est faux. Ben non, c'est beaucoup plus beau que ça.
Vous vivez toujours d'amour et d'eau fraîche. Enfin, pardon. Vous vivez toujours de piscine chauffée, de sexe et de quelques livres, Constance Debray ?
Écoutez, c'est une question très personnelle.
Qui est au centre de votre livre.
Je lâche toujours.
Ouais, vous lâchez toujours ?
Ouais. Je fais du vélo aussi. Voilà. Pour le reste, bon, ça m'appartient.
Puisque vous voulez qu'on reste vraiment dans le domaine littéraire, on va terminer là-dessus. Vous avez cité Homère, faites allusion à Saint-François d'Assise. Je m'attendais qu'à un certain moment, vous citiez Albert Cossery. Non, il ne fait pas partie de votre...
Ah, Cossery. Ouais, bien sûr.
C'est une manière aussi de vivre à la Cossery. Vous lisez quoi en ce moment, Constance Debray?
Qu'est-ce que je lis? J'ai lu hier dans le train un vieux livre, si j'ose dire, de Christine Angot qui s'appelle Sujet Angot, qui est assez impressionnant. Ouais.
Le réveil culturel de Toufi Kakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Love Me Thunder de Constance Debray est édité chez Flammarion. Ça a été un plaisir de vous avoir ce matin avec nous, Constance Debray.
Réciproquement, merci beaucoup.
Et quand je dis nous, bien sûr j'intègre Karine Amar qui m'aide à préparer cette émission, Vincent Bouchard à la réalisation et ce matin à la prise de son, Pierre Monteil. Belle matinée, à demain.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Informer, découvrir, décrypter, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Une mobilisation massive contre la réforme des retraites. Comment analyser cette protestation? Je poserai la question à Pierre Rosanvallon. L'historien sera dans les matins ce lundi.
Les matins de France Culture, ce lundi dès 7h et sur franceculture.fr.
Et si on changeait l'école? France Info et Oui Demain vous invitent jeudi 23 janvier à la première édition des forums éducation. Avènement du numérique, apport des neurosciences, engouement pour les pédagogies alternatives, l'école fait sa révolution. Venez écouter et échanger avec ceux qui inventent déjà l'école de demain. Jeudi 23 janvier à 19h à la Maison de Radio France. Et si on changeait l'école? Un événement France Info et Oui Demain. Réservation sur maisondelaradio.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous.
Une nouvelle enquête judiciaire a été ouverte après la diffusion de vidéos montrant un policier frapper un manifestant ce week-end. Il aura fallu moins de 24 heures donc pour ouvrir cette enquête. Une rapidité qui fait suite au changement de ton de l'exécutif sur le sujet. Nous y revenons dans un instant. Vous comprendrez ensuite pourquoi les internes font de nouveau grève ce lundi dans les hôpitaux. En travaillant 56 heures par jour, ils demandent une meilleure reconnaissance. D'autant que le travail administratif pourrait s'accumuler, ils travaillent 56 heures par semaine. L'espoir d'un cessez-le-feu en Libye. Hier, 11 dirigeants réunis à Berlin ont signé un texte en ce sens. Renforcement de l'embargo sur les armes, promesse de non-ingérence. Ce n'était pas gagné, vous l'entendrez. Une enquête judiciaire a donc été ouverte par le parquet de Paris hier. Idem au sein de l'IGPN, la police des polices. Enquête pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique. Il s'agit en fait d'analyser ce qu'il s'est passé lors d'une manifestation contre la réforme des retraites ce week-end. Des images ont choqué de nombreux internautes, Corinne Audouin.
La vidéo dure 40 secondes. On y voit un jeune homme au sol, couché sur le dos. Son visage est en sang. Sans que l'on comprenne pourquoi, le policier qui le maintient lui assène deux coups de poing au visage. Une autre vidéo, tournée par l'AFP, montre le même manifestant, face au sol, en train d'être menotté. Son visage grimace de douleur quand le policier lui appuie sur le bras avec son genou. Selon le syndicat Alliance, le manifestant aurait craché au visage du policier, ce qui est impossible à voir sur la vidéo. Fait rare, la préfecture de police a ordonné une enquête interne moins de 24 heures après les faits pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Une réactivité qui fait écho aux propos tenus par l'exécutif la semaine dernière. Emmanuel Macron avait ainsi pointé des comportements qui ne sont pas acceptables. Christophe Castaner, s'il refuse toujours d'employer l'expression « violence policière », a rappelé lors de ses vœux à la police le devoir d'exemplarité des forces de l'ordre. Un changement de ton inédit alors que le ministère de l'Intérieur doit annoncer prochainement un nouveau schéma national du maintien de l'ordre.
Pas d'affrontement hier dans les rues parisiennes, mais un différend sur les chiffres. Après la manifestation contre la PMA pour toutes les femmes, à l'appel du collectif Marchons Enfants, le cabinet de comptage Occurrence évoque 26 000 personnes mobilisées, 41 000, dit la préfecture de police. De leur côté, les organisateurs ont refusé de donner un chiffre en dénonçant des estimations fantaisistes. La mobilisation contre la réforme des retraites, elle marque le pas dans les transports ce lundi, après plus de 40 jours de perturbations. Arrêtons-nous maintenant à l'hôpital où le personnel n'en finit pas de craquer. Ce lundi, les internes se mobilisent à nouveau avec des manifestations et des piquets de grève dans plusieurs hôpitaux de France. En moyenne, les internes passent 56 heures par semaine à l'hôpital pour 1580 euros par mois. Chiffre donné par leur intersyndicale, l'ISNI. 56 heures par semaine donc, dont une bonne partie est consacrée à des tâches administratives au lieu d'apprendre à soigner les malades. Cela ne va pas s'arranger, déplore Léonard Corti, secrétaire général de l'ISNI. Il évoque la progression de la chirurgie ambulatoire qui aggrave les choses, dit-il.
La chirurgie ambulatoire, ça pèse déjà parce que ça crée un énorme turnover dans les services. Parce qu'en fait, c'est des patients qui rentrent le matin et qui doivent sortir avant la fin de la journée. Donc il faut faire les papiers d'entrée, s'occuper du patient sur sa journée, donc c'est-à-dire vérifier qu'il est bien revenu du bloc opératoire, qu'il était bien à jeun avant d'y aller, vérifier qu'il va sortir dans de bonnes conditions, parce que le problème de la chirurgie ambulatoire, c'est qu'en fait, on fait sortir les gens rapidement de l'hôpital, mais il faut quand même prévoir les soins à domicile. Donc très souvent, les internes se retrouvent à passer leur après-midi à contacter des infirmières dans le secteur où vit le patient pour s'assurer qu'il aura bien les pansements faits, qu'il y aura bien des personnes qui seront présentes, notamment chez des patients qui peuvent être potentiellement isolés, qui n'ont pas forcément de proches. Alors on a l'impression que l'hôpital travaille moins parce que du coup il y a moins de patients qui dorment à l'hôpital, mais après il y a un énorme travail à faire justement pour organiser la prise en charge extra-hospitalière qui souvent retombe sur les internes. Mais ça techniquement c'est pas le rôle de l'interne, ça serait plutôt le rôle soit des secrétaires médicales, soit des assistantes sociales.
Des propos recueillis par Tara Schlegel. Les élèves de première au lycée s'apprêtent à passer les épreuves communes de contrôle continu pour leur baccalauréat. C'est une nouveauté de la réforme du bac qui entre en vigueur cette année. Mais certaines épreuves sont déjà menacées de boycott par les enseignants qui refusent la réforme. À Clermont-Ferrand ce week-end, des épreuves ont été annulées à cause de manifestations. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, prévient « il y aura des poursuites ». À la culture, le ministre Franck Riester, lui, annule ses vœux. Il devait les présenter ce soir, mais il n'en sera rien à cause d'un appel à manifester lancé par la CGT. Un ministre absent donc, et un monde de la culture qui multiplie les grèves et les actions symboliques. Samedi encore, l'orchestre de l'Opéra de Paris a donné un concert sur le parvis de l'Opéra Garnier contre la réforme des retraites. Mais la réforme dans le monde de la culture ne se cantonne pas à cette réforme des retraites. La colère ne se cantonne pas à cette réforme. Le 5 décembre dernier, une grève a commencé au sein des salariés du Mobilier National. Ils sont chargés de conserver et d'entretenir le mobilier de l'Élysée, des ministères, des préfectures et des ambassades, et ils ont déposé leurs outils à terre en signe de contestation. Ils regrettent en fait le désengagement de l'État à leur côté, Cécile de Kervas-Doué.
Depuis le XVIIe siècle, le Mobilier National restaure et crée des meubles d'exception pour plus de 600 lieux publics. Chaque année, il coûte 5 millions d'euros de fonds publics. Et c'est cette enveloppe que le ministère de la Culture et le Premier ministre veulent réduire en transformant la structure en établissement public, c'est-à-dire un établissement qui pourra à l'avenir avoir ses ressources propres. Pour cette raison, l'institution loue ses réserves et ses meubles pour les défilés d'Hermès ou pour des soirées de gala d'entreprises privées. Pour la première fois cette année, ces artisans d'art ont aussi dû créer une gamme de meubles pour la boutique de design Roset, qui sort ce vendredi. Nicolas Mancel est menuisier en siège. C'est un métier classé au patrimoine culturel immatériel. Il est aussi délégué CGT.
Nous, ce qui nous inquiète, en fait, c'est que c'est maintenant la marchandisation et la commercialisation de la culture. Ce qui s'affiche chez nous désormais, hein, parce que le Mobilier National vient de lancer une gamme de meubles en coédition avec une marque de meubles du marché privé. Nous, ce qui ne nous dérange pas, c'est de faire d'édition pour des intérêts publics, pour meubler des grandes institutions de l'État, que ce soit des écoles, des hôpitaux, quoi que ce soit, où là, on peut agir dans le domaine du public. Après, quand même, quand c'est des agents du public qui font de la création pour se retrouver dans des catalogues commerciaux à but privé qui vont finir par se retrouver sur le bon coin, on a des craintes que la commercialisation prenne le pas des savoir-faire. Parce que nous, on a des métiers rares, en fait.
Des métiers qui créent des pièces uniques, patrimoniales, pas assez rentables donc pour le commerce. Contactée, la direction du Mobilier National assure de son côté que l'objectif de cette politique d'ouverture au privé n'est pas de faire de l'argent, mais de pouvoir soulager les dépenses et surtout de pouvoir financer des projets de création, notamment via le développement du mécénat, qui représente aujourd'hui 30% du budget de l'institution.
Comme un air de déjà-vu face au conflit en Libye. Hier soir, une conférence était organisée à Berlin avec 11 dirigeants. Y ont été actés un renfort de l'embargo sur les armes, mais également la fin par les puissances étrangères de toute ingérence militaire dans ce conflit libyen. Des mesures qui avaient pourtant été décidées il y a 9 ans maintenant, mais qui n'ont jamais été tenues jusque-là. Qu'importe, le moment à Berlin a tout de même été salué, Ludovic Piétenu.
Nous avons fait en sorte que tous les participants parlent d'une seule voix, se félicite Angela Merkel lors de la conférence de presse finale qu'elle tient seule aux côtés d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, et Rassam Salamé, son représentant spécial pour la Libye. Tous les participants s'engagent à respecter l'embargo sur les livraisons d'armes et à faire en sorte qu'un cessez-le-feu durable s'installe. Ce n'était pas chose gagnée d'avance, tant y compris au sein des Européens, entre Paris et Rome par exemple, les points de vue divergeaient, mais Angela Merkel estime que désormais les Européens, eux aussi, ont parlé d'une seule voix.
Toute la phase préparatoire a montré que les Européens se sont vraiment rapprochés. Nous avons eu un engagement vraiment incroyable. Que les Européens aient pu s'aligner dans un sens ou dans un autre a également contribué à notre succès. C'est pourquoi j'ai une bien meilleure impression sur ce point qu'il y a 1 ou 2 ans.
En étant unie, la diplomatie européenne a su peser face à la Russie et la Turquie qui soutiennent chacun l'un des deux rivaux libyens. Il faudra que cet accord s'installe dans le temps et soit véritablement mis en œuvre. Cet accord de Berlin crée une commission intitulée 5+5 qui oblige tous les participants à vérifier régulièrement le respect de la parole donnée.
Et je précise qu'en Libye, depuis la reprise des combats entre les camps rivaux en avril 2019, plus de 280 civils et 2000 combattants ont été tués. Selon l'ONU, plus de 170 000 habitants par ailleurs ont été déplacés. Au Liban, de nouvelles violences ont éclaté hier. Dans la capitale Beyrouth, la police a fait usage de canons à eau contre des manifestants qui jetaient des pierres. 90 blessés ont été recensés. La veille, samedi, ce sont près de 370 personnes qui avaient été blessées dans ces manifestations contre le pouvoir jugé corrompu. En bref, encore, notons que 1% des personnes les plus riches de la planète possèdent deux fois plus de richesses que 90% de la population mondiale. C'est le résultat du rapport annuel d'Oxfam publié ce matin. Une concentration des richesses, donc, au détriment du plus grand nombre, et notamment des femmes, regrette l'ONG, à la veille de l'ouverture du Forum économique de Davos. Le temps ce lundi sera globalement ensoleillé malgré quelques nuages bas près de la Méditerranée et sur l'est du pays. Comptez moins 1 ce matin à Clermont-Ferrand, 1 degré à Lille, 2 degrés à Strasbourg, Lyon et Bayonne, 3 à Paris et Bordeaux, 10 degrés à Nice.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Vous êtes bien sur France Culture, il est 6h40. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées. Jacques, vous vous penchez ce matin sur le procès en destitution de Donald Trump. Il commence demain, alors que la tension est montée d'un cran entre États-Unis et Iran. De nombreux observateurs s'interrogent donc sur la stratégie américaine.
Oui, dans Le Monde, Robert Mallet, ancien diplomate et conseiller du président Obama pour le Moyen-Orient, estime que Trump joue dans le registre de l'instantané, alors que le régime iranien, lui, joue avec le temps. Bien malin celui qui pourra en prédire l'issue, mais le conflit larvé qui semble monter en puissance ne reflète pas seulement une politique dictée par les ambitions électorales du président américain et son désir de donner le change face à la procédure d'impeachment qui le vise. Pour l'actuel dirigeant de l'International Crisis Group, elle révèle un trait déterminant de la géopolitique américaine, je cite, « ceux qui dénoncent la politique américaine comme une démonstration de force dénuée de stratégie se méprennent. Pour le président et ses alliés, c'est la démonstration de force elle-même qui constitue la stratégie. Or, la dissuasion semble en l'occurrence marcher dans les deux sens. La présence américaine en Irak se trouve fragilisée et l'Iran se défait un peu plus des contraintes nucléaires nées de l'accord de 2015. Malgré le résultat calamiteux de la réponse iranienne à l'élimination du général Soleimani, sans faire d'autres victimes que celle de l'avion ukrainien abattu par erreur, difficile de se rappeler une opération d'une telle envergure conduite par un État contre une cible américaine et impossible de se souvenir d'une telle opération ne suscitant aucune réponse. Dans le New York Times, relayé par Courrier International, Farhad Manjoo se demande si le moment n'est pas venu pour les États-Unis de tourner le dos aux guerres, d'abord parce que c'est un moyen dépassé de résoudre les conflits. La technologie transforme les affrontements armés, je cite, en des entreprises qui sont de plus en plus le théâtre de ce que les chercheurs appellent la guerre asymétrique. Le chroniqueur rappelle le coût exorbitant des dépenses consenties au complexe militaro-industriel pour acheter des engins énormes, d'une technologie dépassée comme les porte-avions et les bombardiers, des matériels menacés d'obsolescence face à un avenir où régneront l'intelligence artificielle, les robots de combat et autres cyberarmements. Il en veut d'ores et déjà pour preuve les attaques de drones iraniens contre les pétroliers dans le détroit d'Ormuz qui menacent de provoquer une terrible hausse des prix de l'énergie sur la planète. La dernière livraison de la revue America rassemble analyses historiques et témoignages d'écrivains sur l'importance de la guerre dans l'histoire des États-Unis. L'historien Bruno Caban souligne que né d'une guerre d'indépendance contre l'Empire britannique, le pays a connu moins de 20 années de paix dans toute son histoire. La guerre de sécession a marqué durablement le rêve américain. Plus d'Américains ont alors perdu la vie que dans l'ensemble des autres conflits, Vietnam compris. Puis l'engagement dans la Grande Guerre met à l'épreuve la cohésion nationale d'une société multiculturelle. Une vague xénophobe s'abat sur la communauté hispanique du Texas, soupçonnée de collusion avec le Mexique depuis la guerre de la frontière, commencée en 1910, et sur les Allemands du Midwest. Mais c'est surtout la Seconde Guerre mondiale qui intronise le pays comme grande puissance planétaire avec la transition d'un corps expéditionnaire de taille modeste à une gigantesque armée adossée à une puissante industrie de guerre. La guerre de Corée puis celle du Vietnam portent un coup fatal à la doctrine messianique de la destinée manifeste. Ce qu'on a appelé le syndrome du Vietnam n'a cessé de peser sur les interventions militaires extérieures des États-Unis depuis près de 50 ans. Peur de la rupture entre l'armée et l'opinion publique, de l'enfermement dans un conflit sans fin et d'une défaite morale autant que stratégique. L'écrivain Tim O'Brien évoque la honte de tous ceux qui, opposés à cette guerre, se sont résolus à s'y engager par sens du devoir ou peur du qu'en dira-t-on. 50 ans plus tard, la conscience de cette lâcheté est toujours brûlante. La guerre, je cite, fait de vous un homme dans le sens où elle vous pousse à répéter les gestes que les hommes ont accomplis tout au long de leur histoire, et elle tue l'homme en vous demandant de commettre des actes qui seraient jugés criminels en temps de paix. Auteur de nombreux livres antimilitaristes, il rappelle la théorie des dominos, alors invoquée pour combattre l'influence communiste. Si le Vietnam tombait, tout le sud-est asiatique suivrait. Nous avons perdu la guerre, écrit-il, et les dominos ne sont pas tombés. En revanche, les Américains ont largué plus de bombes sur ce pays grand comme la Californie que sur l'ensemble de la planète durant la Seconde Guerre mondiale. (6h45 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux avec Julie Gacon. Au sommaire aujourd'hui, le pacte vert européen.
Oui Jacques, le Green Deal, comme le dit la nouvelle présidente de la Commission européenne, qui dit aussi vouloir faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici à 2050. Alors certes, l'Union européenne ne représente que 9% des émissions carbone sur la planète, quand par exemple les États-Unis et la Chine à elles seules en émettent 38%, mais il faut bien que quelqu'un commence pour se faire exemplaire en matière de transition verte. N'a-t-on pas entendu lors de la malheureuse COP25 en décembre, des pays comme l'Inde ou la Chine dire qu'ils ne feront pas davantage d'efforts que ceux auxquels ils ont déjà consenti. Alors Ursula von der Leyen a donc expliqué récemment devant le Parlement européen comment elle compte mobiliser 1 000 milliards d'euros sur 10 ans pour la transition écologique. Bonjour Aurélien Sausset.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur à la London School of Economics. Vous êtes économiste de l'environnement, spécialiste des questions de transition énergétique. Alors, 1 000 milliards d'euros sur 10 ans, ça ne veut pas dire que l'Union européenne va prendre cette somme sur ses fonds propres. Comment est-ce qu'elle compte s'y prendre? Qui peut-elle mobiliser pour financer cette transition?
Alors, les détails ne sont pas encore totalement arrêtés. Il semblerait qu'on soit parti sur un mode de financement qui se rapproche de ce qu'on avait appelé le plan Juncker lors de la mandature précédente. C'est-à-dire que l'Union européenne met une petite contribution de fonds propres et ensuite utilise ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire que ces fonds propres vont servir à garantir des prêts. Et en fait, les 1 000 milliards qui sont évoqués, c'est 1 000 milliards d'investissements réalisés par le secteur privé et le secteur public, mais principalement sur de l'emprunt qui sera garanti par des fonds européens. Donc c'est pas 1 000 milliards d'euros d'argent frais pour la transition énergétique.
Donc, parce que pour ces 1 000 milliards, c'est pour financer les transports en commun, la transition agricole, par exemple, l'isolation des logements. Ça veut dire qu'elle va devoir, il va falloir lever des fonds à différentes échelles et, par exemple, solliciter, vous dites le privé, mais il faudra aussi solliciter des collectivités locales, les communes, par exemple, qui n'ont pas toutes de l'argent à mettre dans la transition écologique.
Alors, un des éléments qui semble se préciser, c'est qu'il va y avoir une redirection de ce qu'on appelait les fonds structurels. Donc les fonds qui étaient dédiés par l'Union européenne aux régions et aux collectivités locales, justement, pour aider leur développement, ça va être redirigé intégralement vers la transition écologique. Donc ça, à ce niveau-là, ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, puisque malheureusement, jusqu'à présent, la Commission européenne, pour une part de ses activités, finançait des investissements verts, et pour une autre part, continue à financer des autoroutes, des aéroports, des pipelines, donc des investissements qui étaient totalement en contradiction avec ses objectifs climatiques. Donc là, normalement, à partir de ce nouveau mandat, les contradictions devraient être supprimées et l'intégralité des fonds qui étaient dédiés aux collectivités locales seront intégralement réorientés vers la transition écologique. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Après, le président de l'association des régions européennes a déjà fait savoir que il y avait deux problèmes avec ce projet-là. C'est d'une part, il ne faudrait pas que ça conduise à un manque de financement pour d'autres priorités des fonds consacrés aux collectivités locales, comme la santé, par exemple, ou l'éducation. Et l'autre point, c'est qu'en fait, lors de la dernière présidence finlandaise de la mandature précédente du Parlement européen, on a vu une baisse dans les dernières propositions de budget européen pour la prochaine période de plus de 40 milliards de ces fonds structurels dédiés aux régions. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait une réduction de ces fonds dans le même temps que leur réorientation vers la transition écologique.
Alors on sera particulièrement vigilant notamment à ce que les 100 milliards sur les 1 000 milliards d'euros que promet la Commission européenne, 100 milliards doivent être dédiés à ce que la Commission appelle la transition juste, c'est-à-dire aider les pays les plus dépendants encore à l'énergie fossile à atteindre l'objectif de neutralité climatique d'ici 2050. 100 milliards, sauf qu'encore une fois, la Commission propose de ne l'abonder ce fonds qu'à hauteur de 7 milliards et demi. Donc c'est toujours la question de qui complète, en fait. Et en l'occurrence, quelles régions sont concernées? Est-ce qu'elles pourront compléter?
Alors ça, justement, c'est un très bon exemple, effectivement, puisque ce type de ratio, c'est-à-dire 7,5 milliards de fonds propres pour 100 milliards d'investissements annoncés en termes de communication, c'est à peu près le ratio qu'on va retrouver sur l'ensemble du plan. Donc je ne serais pas étonné qu'au final, il n'y ait que 75 à 100 milliards de fonds propres en dur, entre guillemets, pour sur les 1 000 milliards qui sont annoncés d'investissements déclenchés pour la transition écologique. Alors là, en l'occurrence, ce plan de 100 milliards pour la transition juste, il a vraiment un objectif très politique. C'est que pour que l'objectif de neutralité climatique en 2050 soit totalement entériné, il faut l'unanimité des 27. Et pour l'instant, il reste un pays qui refuse de signer, c'est la Pologne, et pour une raison assez simple, qui est que son mix électrique est encore très dominé par le charbon. Le secteur minier du charbon représente encore beaucoup d'emplois en Pologne. Pour donner une idée, c'est à peu près 240 000 emplois sur l'ensemble de l'Union européenne, mais c'est plusieurs dizaines de milliers d'emplois rien qu'en Pologne. Et par ailleurs, s'il venait à sortir trop rapidement du charbon sans aide des partenaires européens, il serait contraint de se tourner vers du gaz. Et malheureusement, 95% de leur gaz est importé de la Russie. Les rapports entre la Pologne et la Russie sont évidemment pour des raisons historiques et géopolitiques très complexes. Et donc, il y a un impératif pour le gouvernement polonais d'avoir une vision claire de comment ils vont sortir du charbon sans être obligés d'avoir recours à l'importation de gaz russe. Et donc du coup, là, il y a l'objectif de ce fonds de transition juste, c'est d'essayer de convaincre la Pologne, mais aussi les autres pays de l'Est qui sont encore très dépendants au charbon ou au gaz naturel, de leur montrer qu'on leur apportera un soutien financier pour les aider à sortir des fossiles. Mais comme vous l'avez très, très justement souligné, là, pour l'instant, 7,5 milliards, c'est ce que donne la Commission. A priori, il y aura des fonds qui viendront de la Banque européenne d'investissement. Mais ce que la Banque européenne d'investissement fait, généralement, elle met assez peu de fonds propres. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle garantit des prêts. Alors, ce sera des partenariats publics-privés, ce sera de l'investissement purement privé. Mais effectivement, l'idée, c'est d'apporter du financement peu cher. Ça, c'est ce que peut proposer la Commission. Mais à l'heure actuelle, effectivement, on pourrait espérer que sur ces 100 milliards, il y ait aussi un peu plus d'argent en dur.
Et c'est pour ça qu'Ursula von der Leyen s'est aussi exprimée en présentant le financement de ce plan. Elle s'est adressée aux mineurs de Silésie, par exemple, qui est une région de Pologne. Est-ce que finalement ce fonds de transition juste ne peut pas finir par convaincre la Pologne, mais aussi la République tchèque, la Hongrie, qui ont des économies encore très carbonées, comme on dit, de s'y mettre aussi, et puisque vous rappelez que la neutralité carbone, ça requiert l'unanimité des pays européens, et de finalement s'engager aussi en faveur de cette transition.
En tout cas, c'est l'objectif poursuivi. Après, il ne faut pas leur jeter la pierre trop rapidement non plus. Vous dites qu'ils sont encore très carbonés, comme si nous l'étions moins.
L'Allemagne l'est aussi.
L'Allemagne a encore une part énorme du charbon et a encore aussi une activité minière de charbon sur son propre territoire qui est encore assez, assez intense.
Et justement, donc, est-ce que l'Allemagne aura aussi accès à ce fonds de transition alors qu'elle est autrement plus riche que ces pays de l'Est ?
A priori, c'est pas le but. En tout cas, c'est pas le but qui est annoncé. Et effectivement, ce serait assez absurde de fournir de... Surtout qu'a priori, ce fonds, il sera abondé par des fonds en partie allemands. Donc, ce serait un peu reprendre de la main droite qu'on donne de la main gauche. Donc, ce serait pas très pertinent. Mais par contre, ce que ce mécanisme de financement qui utilise un effet de levier très important et qui recourt principalement à des partenaires publics-privés, en tout cas pour ce qui est annoncé pour l'instant, ça montre une chose par rapport au nom de ce plan, donc qui porte le nom de Green Deal. Évidemment, c'est censé évoquer le New Deal de Roosevelt. Et là, la dimension sociale, la dimension relance de l'économie, elle semble totalement absente. Puisque pour une dimension relance de l'économie, on aurait pu imaginer qu'il y ait des European Project Bonds ou des European Green Bonds, donc des obligations vertes au niveau européen, qui auraient été empruntées sur les marchés et mises sur les marchés par la Commission européenne. Donc soit dans le cadre de la zone euro, soit dans le cadre de l'Union des 27, et qui viennent financer cette transition énergétique. Là, à l'heure actuelle, c'est pas du tout ce qui est proposé. Donc du coup, on a peine à voir quel effet, en plus sur l'activité économique et, pour ne rien dire de la dimension sociale, qui est complètement absente du discours de la Commission européenne pour l'instant, on a peine à voir quel va être réellement l'impact supplémentaire par rapport à ce qu'a été le plan Juncker précédemment. Puisque le plan Juncker, sur l'ensemble du mandat de Juncker, de la commission Juncker, le montant total d'investissement déclenché était autour de 600 milliards d'après la Banque européenne d'investissement. Donc finalement, on a quelque chose qui est un peu plus, là, cette fois-ci, qui est entièrement consacré à la transition écologique, ça c'est positif. Mais en termes d'impact macroéconomique, il n'y a pas de raison de penser que ça sera beaucoup plus efficace que ce n'a été le plan Juncker.
C'est ce que dit par exemple celui qui est devenu rapporteur du budget au Parlement européen, l'économiste Pierre Leroux Turoum, aujourd'hui député européen, qui dit que la Banque Centrale Européenne a fait marcher la planche à billets, comme on dit, elle a fabriqué 240 milliards d'euros et qu'une partie de cet argent pourrait être consacrée à la transition écologique, notamment aujourd'hui elle n'accorde que 32 milliards de prêts verts. Et a priori on pourrait, d'après vous, faire davantage, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça?
Bah, disons que je suis pas certain que la Banque Centrale Européenne soit forcément le meilleur instrument pour ça. Enfin, il y a beaucoup de débats, pour le coup, c'est un champ de recherche assez actif de voir quel peut être le rôle des banques centrales dans le financement de la transition énergétique. Puisque là, ce que vous évoquez, c'était du quantitative easing, c'est-à-dire de, ça servait en fait à renflouer les banques qui avaient vu leur bilan très dégradé par la crise précédente, mais c'était pas des investissements dans l'économie réelle. Faire tourner la planche à billets pour investir dans l'économie réelle, on n'est pas certain que ce soit forcément le meilleur mécanisme. Par contre, on a un mécanisme qui existe, qui est d'émettre de la dette publique pour financer des projets d'investissement d'avenir. Il n'y a pas de raison que pour un impératif aussi important que le changement climatique, on n'ait pas recours à l'emprunt, à la dette publique pour faire de l'investissement public, puisqu'il s'agit d'un bien public, la préservation du climat. Donc là, à ce niveau-là, il y avait la possibilité d'avoir recours à l'émission de dette publique européenne, dont la charge serait partagée soit à l'horizon de la zone euro. C'était une des propositions même d'ailleurs du président Macron, hein, lorsqu'il évoquait la possibilité de constituer un budget de la zone euro. C'était aussi pour qu'on ait la possibilité d'émettre de l'emprunt qui soit garanti par ce budget de la zone euro. Bon, là, c'est pas du tout la piste qui est poursuivie par la Commission européenne à l'heure actuelle, quoi.
Alors, le premier texte officiel de la Commission européenne sur ce pacte vert est attendu pour mars prochain. Et en attendant, les États membres sont en train de négocier le budget européen pour la période 2021-2027. Donc, on verra si les arbitrages sont faits en faveur de la transition écologique ou s'ils choisissent d'autres arbitrages lors de ces négociations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Aurélien Saucet, ce matin. Et je vous souhaite une très bonne journée.
Merci à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Il se présente comme anticollapsologue.
Sur France Culture, de nouveaux rendez-vous quotidiens consacrés à l'actualité de la vie des idées, de la culture, de l'histoire, de la philosophie, des sciences.
La trottinette électrique pouvait aussi sembler rapprocher en un élan l'insouciance des premiers moments à l'inquiétude de la fin des temps.
Des chroniques à écouter sur l'antenne et à retrouver sur notre site dans la rubrique Le Fil Culture, complétée par des décryptages, enquêtes et vidéos.
Le plus respecté des photographes n'a cessé de s'en prendre aux images.
L'actualité de la culture, des savoirs et des idées, à l'antenne et dans Le Fil Culture sur franceculture.fr. Histoire. Autrement sur France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Cette semaine, nous allons en Iran, à la confluence des passions. De Darius le Grand au Shah d'Iran, de l'Empire Sassanide à la République des Mollahs, c'est un carrefour de peuples et de cultures. Mais comment porter un regard perçant sur un pays au carrefour des mondes qui fascine autant qu'il effraie, mais sans jamais laisser indifférent?
Le cours de l'histoire, cette semaine à 9h05 et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, les matins approchent. Bonjour Guillaume Herner, c'est votre heure du jour.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous. Alors attention, hein, je vais franchir le point Godwin avant 7h du matin. Franchir le point Godwin, autrement dit, comparer un phénomène contemporain au nazisme, c'est ce à quoi se livre un grand historien du nazisme, Johann Chapoutot, dans un essai qui obtient en ce moment un vif succès. Cet essai s'intitule « Libre d'obéir », un essai au sous-titre également évocateur, le management du nazisme à aujourd'hui. Comme ce sous-titre l'indique clairement, ce livre prétend qu'il existe une continuité entre les méthodes de management actuelles et le nazisme, comme si finalement les Didier Lombard, vous savez l'ancien patron de France Télécom, prototype du patron brutal, comme si ce type de dirigeant était des descendants de bureaucrates, de managers nazis. Alors bien sûr, comme Johann Chapoutot est un homme prudent, il ne le dit pas, mais en revanche, il le sous-entend, il ne nazifie pas le management, il fait un rapprochement comme ça, en faisant mine de ne pas y toucher. C'est ainsi que notre historien peut déclarer, comme ça tranquillement, qu'il existe une continuité entre les techniques d'organisation du régime nazi et celles que l'on retrouve aujourd'hui au sein de l'entreprise. Il ne dit pas que les SS étaient des DRH empire, mais c'est quasiment sous-entendu. Autant vous le dire, je juge ce rapprochement à la fois inutile sur le plan scientifique et scandaleux moralement. Inutile sur le plan scientifique parce que le fait que des cadres nazis, par ailleurs non impliqués dans la solution finale, aient développé une réflexion sur le management, voire même soient devenus après-guerre des gourous du management, eh bien, ces cas isolés ne prouvent rien. Il y a également eu des profs de sport sous le Troisième Reich et ça ne fait pas du sport une activité nazie. En outre, les techniques de management déployées par les nazis dans les camps de concentration étaient proches du zéro. Une lecture rapide de Primo Levi montre que le projet d'entreprise d'Auschwitz se limitait à un verbe, tuer. Le reste était absolument périphérique et marginal. L'économie nazie, c'était avant tout le vol, la spoliation, la guerre contre les juifs, les slaves, les populations occupées. On a le droit de détester le management, bien sûr, on peut haïr le nazisme, mais pourquoi comparer l'un à l'autre? Ça me rappelle une blague d'Amos Oz, l'écrivain israélien. Lorsqu'on lui disait que le sionisme était une forme de nazisme, il disait « il y a au moins une bonne nouvelle dans ce que vous venez de dire, c'est que vous avez enfin compris que le nazisme, c'était mal ».